Regard sur le Grand Victoria est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire, seul organisme mandaté pour soutenir financièrement les radios communautaires et de campus du pays. Regard sur le Grand Victoria. Votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité municipale. À retrouver tous les mercredis à midi et en rediffusion le samedi à 10h sur les ondes de Radio Victoria 107.9 FM. Mais aussi en balado sur radiovictoria.ca. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 9 septembre. Merci à vous d'écouter Radio Victoria. C'est François Macon au micro et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Regard sur le Grand Victoria. Nous sommes ensemble pour cette demi-heure, vous le savez, consacrée au décryptage de l'actualité de nos gouvernements locaux dans la région du Grand Victoria. Et cette semaine, au sommaire, toujours l'actualité de la municipalité de Victoria dans le dossier de la gestion des campements pour les sans-abri. Après le démantèlement du campement instauré dans le Centennial Park pour trafic et comportement criminel, la municipalité de Victoria a décidé jeudi dernier en conseil municipal de réinstaurer sous condition le camping dans Centennial Park, mais d'interdire dans d'autres endroits de la ville le camping. Nous ferons le point sur cette situation qui, entre fermeture et réouverture des campements, devient, il faut bien l'admettre, de plus en plus complexe et confuse. Toujours au sujet de cette crise du logement, nous ferons un tour du côté de la province de la Colombie-Britannique qui, cette semaine, a annoncé l'achat d'un terrain pour y construire 40 nouvelles maisons à destination des populations vulnérables avec services de soutien 24 heures sur 24. Et puis nous resterons à Victoria qui poursuit sa stratégie globale pour zéro déchet en introduisant en ville ses nouvelles stations de tri sélectif. Et enfin, en deuxième partie d'émission, nous recevrons le professeur Jérémy Weber avec qui nous reviendrons sur l'annonce la semaine dernière de la création du Centre national des droits autochtones. Ce centre va être construit durant l'année 2021. Il devra servir à une meilleure compréhension, intégration du droit coutumier autochtone avec le droit commun canadien. Nous en parlerons tout à l'heure avec le professeur Jérémy Weber. Je vous le disais en titre, Victoria va autoriser la réouverture du campement dans Centennial Park et décide de mieux encadrer de manière législative les conditions de camping en plein jour dans les parcs de la municipalité. Le conseil municipal de Victoria a décidé jeudi, après de très longues heures de débat, de permettre aux personnes sans domicile fixe de se réfugier de nouveau dans Centennial Square, malgré la fermeture du site il y a quelques jours à peine, en raison d'activités criminelles. Lors d'une réunion de l'ensemble du comité jeudi, le personnel a soumis un rapport recommandant que Centennial Square, mais aussi Summit Park, Moss Road Park, McDonald Park, South Park, Robert Porter Park et David Spencer Park soient ajoutés à la liste des parcs de la ville où s'abriter en camping durant la journée et la nuit est interdit. Cependant, le conseil a voté par 5 voix contre 3 pour retirer Centennial Square, la place du centenaire, de cette liste. La maire Lisa Helps et les conseillers Charlene Tortenjo et Jeremy Loveday s'y sont fermement opposés.
Well, first of all, I was shocked, quite honestly, about the proposal to remove Centennial Square from the prohibited list of sites. Staff brought us a very thoughtful recommendation. It's supported by the Downtown Victoria Business Association, and I think it's probably informally supported, I don't know if anyone wants to come out and say this, by a lot of people who use the square who may already be vulnerable. It doesn't make sense to have camping in the downtown. We are the downtown core of the region. So it doesn't make any sense. The good news is that was just direction to staff to draft the bylaw. You can be sure that when this comes back, I am going to make a motion to add Centennial Square back into the list of prohibited sites and hope that at least two councillors will change their vote.
Au cours de cette réunion, les campeurs et leurs partisans se sont rassemblés devant l'hôtel de ville pour manifester leur opposition au déplacement et pour écouter la réunion en direct. Le conseil municipal a par ailleurs demandé au cours de cette session au service des règlements des parcs de limiter le nombre de campeurs qui s'abritent dans chaque parc autorisé et exiger que les tentes soient désormais installées à au moins 4 mètres les unes des autres pour accroître la sécurité incendie et lutter contre la propagation de la Covid-19. De plus, les refuges sont désormais interdits à moins de 50 mètres d'une école, une nouvelle restriction qui découle en grande partie des préoccupations concernant les campements dans le parc Beacon Hill, en face de l'école South Park à James Bay.
We are still in a provincial state of emergency. This was declared by the province on March 18th when the pandemic hit, and it's still in force. And so staff's proposal, which council accepted, is that these bylaw amendments will be in place for the duration of the pandemic as emergency measures, and that daytime camping will end 30 days after the province lifts the state of emergency. So as you would imagine, and probably some of you who are watching have emailed us, we've received hundreds of emails from residents about sheltering in parks, and we hear you. This is a really, really difficult situation. It was heartbreaking last night at our council meeting when we had people speaking with us about the challenges that they were having with taking their kids to the park, something that in a first world country you'd think would be a pretty easy thing to do. The situation's not sustainable. Right now, we're needing to make impossible choices, trying to balance the needs of people who want to take their kids to the park to play with the needs of people who don't have anywhere to sleep at night. And as the local government, our job is to represent and listen to the concerns of everyone living in Victoria. And my greatest hope is that over the next couple of months, as we work through these really challenging issues, that we can continue to come together as the kind of community that I know we are, which is a kind, a caring, and a very loving and welcoming place.
Le Conseil a également, au cours de cette réunion, accepté de dépenser 165 000 $ supplémentaires en 2020 pour embaucher 5 nouveaux agents des règlements administratifs et une proposition de la maire visant à augmenter les patrouilles de police dans ce secteur a été reportée à la prochaine session jusqu'à ce que le Conseil puisse obtenir plus d'informations sur la situation budgétaire en cours du service de police. Le Conseil a aussi accepté de dépenser 40 000 $ pour faire participer les personnes sans domicile fixe à une réflexion globale sur une meilleure gestion des campements. Le nombre d'abris temporaires a plus que doublé de juin à août et s'élève maintenant à environ 275 selon un rapport de la ville. Cela s'ajoute aux 500 personnes qui ont été transférées dans d'anciens hôtels et d'autres sites achetés ou loués par BC Housing depuis le début de la pandémie. Cependant, il reste beaucoup à faire.
While housing and homelessness are not municipal responsibilities, we know that we have to do our share. Since 2018, the city has contributed approximately $2 million to support the delivery of affordable housing projects in the city. We've had more than 200 affordable units of rental housing approved since that time, and more are on the way through the approval process now. The city recently purchased land for affordable housing. We annually put over $500,000 into the Housing Reserve Fund, and we're providing almost $1 million of this to new projects in 2020. In the past 2 years, we've had nearly 900 units of rental housing approved in the city. And we're also doing everything we can in innovative and creative ways to participate in the building of affordable housing. So this includes using our new fire hall, which is under construction now by Jall Properties on Johnson Street, to put 130 units of affordable housing on top of there. There are two affordable housing projects that we're working on right now. We've combined forces with the school district, put together some land. There are 87 units happening in Burnside Gorge and another 151 units happening in Fernwood, right outside my front door. Land and buildings are also being used in any way we can, like the Boys and Girls Club, which has been sheltering 48 people since 2016. And we're going to continue to do our part and to implement the Victoria Housing Strategy. But we can't do it alone. Yesterday, Councillor Loveday quite wisely said in our council meeting, we need help. We need help from the provincial government. We need help from the federal government because everyone deserves a home.
Vous venez de l'entendre, la maire de Victoria, Lisa Helps, a souligné les efforts constants de la municipalité pour tenter de résoudre cette crise du logement. Une solution aussi apportée par le partenaire provincial, nous le verrons dans le titre suivant. Mais elle a aussi souligné que les mesures approuvées ce jeudi demeurent temporaires et que les modifications au règlement prendront fin 30 jours après la fin de l'état d'urgence provincial. Elle a également cité le conseiller Jérémy Loveday lors de cette réunion qui a déclaré « Si vous regardez les problèmes que nous rencontrons dans nos rues, il s'agit de la crise du sans-abri, du logement, des soins de santé, mais aucun de ces problèmes ne relève de la compétence municipale. C'est une crise régionale, c'est une crise provinciale, une crise fédérale, et le fait que ce fardeau soit porté dans notre région par une seule municipalité, ce n'est pas juste. Nous avons besoin d'aide », a ainsi résumé le conseiller Jérémy Loveday. Pour finir et pour ajouter à la confusion, la ville a envisagé cette semaine d'autoriser le camping au Royal Athletic Park pour réduire le nombre des tentes dans Central Park qui se situe à proximité. Cette décision nécessiterait la coopération de BC Housing qui a affirmé très vite cette semaine également qu'elle n'appuierait pas la proposition. Iceland Health et BC Housing avaient déjà opposé leur veto sur le projet municipal d'établissement d'un campement d'un Royal Athletic Park au printemps, ce qui avait eu pour conséquence, entre autres, de concentrer le camping dans le parc Topaz avant son démantèlement ordonné par la province le 25 avril dernier. Et toujours dans ce dossier du logement, le gouvernement de la Colombie-Britannique va fournir environ 1,8 million de dollars par l'entremise du Building BC Supportive Housing Fund pour acheter une propriété située au 1172 rue Yates qui devrait offrir 40 maisons avec service de soutien permanent aux personnes sans-abri à Victoria. La province rappelle qu'il y a environ 480 nouvelles maisons en développement ou déjà construites pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque d'itinérance dans le district régional de la capitale. Selon Carol James, député de Victoria Beacon Hill, ce projet est la prochaine étape du travail continu pour assurer que les personnes vulnérables de Victoria aient un chez-soi avec des soutiens globaux pour les aider à bâtir un avenir meilleur, a-t-elle déclaré. La province réaffirme son engagement et déclare qu'elle sait que le logement avec service de soutien fait une réelle différence pour les résidents et pour les collectivités et continuera de travailler avec ses partenaires pour amener le plus possible de gens dans des maisons. Le projet proposé fournirait jusqu'à 40 maisons sûres et sécurisées avec des services de soutien enveloppants. En attendant les approbations municipales, la construction devrait débuter en décembre 2021. De son côté, la maire de Victoria, Lisa Helps, a déclaré qu'il s'agit d'une contribution de la province pour aider à résoudre les problèmes de logement dans la région de la capitale. Et elle s'est dit très optimiste et impatiente de faire avancer ce développement dans le cadre du processus d'approbation municipale le plus rapidement possible. Comme pour tout logement avec service de soutien, un fournisseur de logements sans but lucratif sera sélectionné pour gérer l'édifice. Le logement sera composé de studios autonomes et les résidents bénéficieront d'un service personnel et de services de soutien sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris des programmes de repas, une formation sur les compétences de vie et d'emploi et de réinsertion et des services de soutien en matière de santé et de bien-être. Et toujours à Victoria, mais dans un tout autre registre, la ville continue son combat contre les ordures ménagères dans les rues de la ville avec l'instauration de stations de tri zéro déchet. Vendredi, ces premières stations ont vu le jour puisque ces nouveaux bacs de tri sélectif sont arrivés au coin des rues Government et Humboldt et devraient se répandre petit à petit dans le centre-ville, les quartiers alentours et les parcs pour améliorer les options de compostage et de recyclage. Selon la municipalité, plus d'une tonne de déchets est produite chaque jour dans les rues et les parcs de Victoria, ce qui coûte à la ville plus de 5 millions de dollars par an à gérer. Ces trois nouveaux bacs dans chaque station représentent trois flux de déchets, vert pour les matières organiques, bleu pour les matières recyclables et noir pour les déchets. Une signalisation particulière demande aux utilisateurs de gratter les nourritures restantes dans les récipients, dans le bac vert et de trier leurs articles recyclables dans les autres bacs prévu pour cet effet. Avec la prolifération des plats à emporter, il est de notre responsabilité en tant que ville de nous assurer que nous avons une infrastructure moderne qui permet aux personnes de faire ce qui est juste pour notre communauté et pour l'environnement, a déclaré la maire Lisa Helps. Ainsi, fournir aux gens des options pour recycler ou composter des matériaux qui n'appartiennent pas à une décharge est une étape importante dans la création d'une ville durable. Les stations zéro déchet nécessitent également moins de contacts et de levage pour les travailleurs de la ville que n'en demande la collecte classique des poubelles actuelles du centre-ville, qui sont vidées deux fois par jour par les services de la municipalité. En 2018, le conseil municipal de Victoria a demandé au personnel d'élaborer une stratégie globale zéro déchet. Un audit des déchets achevé en 2019 a fourni une analyse complète montrant que, par exemple, plus de 13 000 tasses à café en papier entraient dans les poubelles de Victoria chaque jour, ainsi que des taux de contamination élevés, ce qui signifie que de nombreux articles ont été déposés dans des mauvais bacs ou contenaient encore de la nourriture. L'introduction de ces stations n'est que l'une des différentes façons dont la ville prévoit d'augmenter les taux de recyclage et de compostage, des taux qui doivent atteindre, je le rappelle, plus de 60% à l'horizon 2025. Regard sur le Grand Victoria. Entretien. Et pour cette deuxième partie de Regard sur le Grand Victoria, je reçois en entretien le professeur Jérémy Weber, qui est l'ancien doyen de la faculté de droit de l'Université de Victoria de UVic et qui est l'un des grands artisans de la création du Centre national pour les lois autochtones qui sera hébergé dès 2021 dans les locaux de l'Université de Victoria. Un financement de 27 millions de dollars du gouvernement et de la Fondation du droit ouvre une voie inédite avec la création de ce nouvel outil qui devrait pouvoir renforcer la compréhension et l'interaction du droit coutumier autochtone avec celui du droit commun canadien et renforcer également le dialogue entre les communautés autochtones et favoriser une meilleure compréhension des différents systèmes juridiques et de leur imbrication et en faire dorénavant des outils d'intégration et de réconciliation. Bonjour Monsieur Weber.
Bonjour.
Comment allez-vous ce matin?
Très bien, vous-même?
Plutôt bien, je vous remercie infiniment d'être avec nous pour nous parler de ce Centre national des droits autochtones qui va être bientôt lancé, qui va être construit à partir de 2021, qui verra certainement le jour au cours de cette année. Alors, c'est un centre d'études comparé du droit commun canadien et du droit autochtone, c'est bien cela. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que vous pouvez nous rappeler la genèse de ce projet?
C'est bien ça. L'idée, c'est vraiment comment trouver les moyens de travailler entre les systèmes juridiques autochtones, et ça veut dire plusieurs systèmes juridiques autochtones. C'est pas comme s'il y a qu'une seule. Et le common law, et aussi le droit civil. C'est une partie d'une tentative pan-canadienne, vraiment. En fait, internationale. Pour avoir les structures plus saines d'interaction entre les systèmes de droit coutumier et les systèmes de droit étatique.
Alors j'imagine que c'est une étape très importante aujourd'hui dans la renaissance et la reconnaissance du droit autochtone. C'est une étape significative dans le processus de réconciliation. Comment vous avez travaillé avec les Premières Nations et comment ce projet est né?
C'est vraiment le résultat d'une longue période d'expérimentation des relations qu'on avait avec les peuples autochtones. C'est le genre de tentative qui ne peut pas être faite sans des relations très étroites avec plusieurs peuples autochtones. Donc, la faculté de droit de l'Université de Victoria a eu des liens très proches avec les peuples autochtones depuis plus de 20 ans. En fait, il y avait depuis plus de 20 ans, 25 ans cette année, nos classes, toutes les classes qui viennent dans le programme de bac en droit à l'Université de Victoria ont passé du temps dans les communautés autochtones pour vraiment vivre les systèmes juridiques autochtones sur place. Donc, c'est quelque chose qui est fondé sur une base très importante, avec des programmes d'interaction, de soutien avec des peuples autochtones à travers le pays du Canada, en fait. Depuis le Mi'kmaq, en Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse jusqu'à les Nunavut sur l'île de Vancouver ici en Colombie-Britannique.
Donc c'est effectivement une expérience pratiquement nationale. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus en détail que va proposer concrètement ce centre national, quel diplôme, que contiendront les programmes, en quelle année les étudiants peuvent-ils intégrer le centre?
Le programme comme tel, c'est un programme qui essaie d'avoir les étudiants étudier les deux systèmes de droit, ou en fait c'est le système de common law, et de l'autre côté, avoir voir de près plusieurs exemples des ordres juridiques autochtones à travers un programme de bac de 4 ans. Le bac en droit dure d'habitude de 3 ans, mais ce programme est de 4 ans. Et l'idée, c'est que c'est à peu près égal entre le common law et les droits autochtones. Et donc, on va faire une comparaison depuis la première année entre les approches de common law, par exemple, dans les droits des biens, et une approche d'un système autochtone. Par exemple, pour les droits des biens, c'est le système Gitxsan, du peuple autochtone du Nord-Ouest de la Colombie-Britannique. Et dans le droit constitutionnel, c'est le droit constitutionnel canadien et le droit constitutionnel du peuple Anishinaabe de l'Ontario et de Manitoba. Et l'idée, donc, c'est qu'à travers ces 4 ans, on va avoir des approches pour savoir comment travailler avec les autres juridiques autochtones, comment résoudre des problèmes à l'intérieur de ces structures, comment créer des institutions qui s'inspirent des principes des autres juridiques autochtones. Et en même temps, on va voir dans la common law les approches qui sont pareilles, qui sont différentes, et par voie de cette comparaison, avoir une idée de comment travailler à l'interface des deux systèmes et aussi travailler à l'intérieur de chaque système pour faire le travail d'un avocat, faire le travail pas seulement d'un avocat, mais d'une personne qui joue un rôle de créateur, joue un rôle de constructeur.
De législateur.
Exactement. Pour, comme tout système juridique, c'est pas comme si un système juridique existe tout à fait parfaitement, sans changement. Chaque ordre juridique est en pleine évolution. Il faut les adapter. C'est la même chose pour le common law, c'est la même chose pour le droit civil aux problèmes actuels, et c'est la même chose aussi pour les ordres juridiques autochtones. C'est comment vivre par les principes de ces ordres, avec le langage, avec la structure conceptuelle de ces ordres juridiques dans le monde actuel, et qui peut s'adresser à des problèmes qui existent dans chaque société, mais aussi bien dans les sociétés autochtones.
Alors, on l'a bien compris, le droit est effectivement une matière vivante, il faut la faire vivre, il faut qu'elle s'adapte à la société,
absolument,
aux défis de la société contemporaine. Est-ce que vous savez d'ores et déjà combien d'étudiants pourraient être inscrits à terme dans ce programme? Vous en avez déjà une partie qui suit ce programme depuis quelques années, vous l'avez rappelé. Combien, en termes de capacité, combien d'étudiants pourront être effectivement diplômés à terme? Et surtout, quels débouchés sur le marché du travail pour ces futurs étudiants?
Donc, c'est la troisième année du programme, et l'idée, c'est d'avoir dans chaque année 25-26 étudiants. Et ces étudiants seraient majoritairement, mais pas exclusivement, autochtones. Et il y a, en fait, on trouve qu'il y a beaucoup de demandes pour ces étudiants. C'est certainement le cas dans la communauté autochtone comme telle, qui exerce maintenant beaucoup de pouvoir de gouvernance, de contrôle sur les terrains, et ils veulent le faire en utilisant leurs propres principes. Et donc, il faut avoir non pas le genre de conseil qu'il obtient maintenant des avocats, qui est, ça c'est une exagération, mais c'est certain que très souvent, ce conseil s'inspire des modèles non autochtones et qui ne marchent pas très bien dans les structures, dans les systèmes communautaires autochtones. Et donc, l'idée, c'est vraiment comment créer des institutions, créer des systèmes de réglementation qui sont basés sur le principe même des sociétés comme telles. Et c'est ce genre de choses qui est vraiment au cours du problème, au cours du programme, je m'excuse. Mais aussi, il y a beaucoup de gouvernements, d'entreprises qui ont des relations avec ces communautés. Et ces gouvernements, ces entreprises voient la nécessité d'avoir une relation qui est protectrice avec ces communautés. Et donc, ils ont aussi un très grand intérêt à avoir des personnes qui peuvent travailler dans la zone d'interaction des systèmes de droit.
Une dernière question, Monsieur Weber. C'est une initiative nationale qui va être lancée, une initiative de concertation qui va viser à faire connaître ce programme tout d'abord, et puis aussi à identifier d'autres initiatives similaires de reconnaissance du droit autochtone au Canada et peut-être même au niveau international. Alors comment cette campagne va être lancée? Est-ce que vous allez vous-même faire partie de cette campagne?
Oui, il faut bien. Je devrais dire que le programme comme tel est la création d'une grand mouvement des universitaires à travers le Canada, y compris beaucoup, beaucoup d'universitaires autochtones, pour vraiment créer ce genre d'approche. Et l'idée du nouveau centre, c'est vraiment pour concrétiser cette approche de concertation, cette approche d'engagement de la société canadienne, de recherche sur les structures autochtones et les modèles de réalisation des institutions autochtones pour vraiment avoir la base de connaissances qui pourrait sous-tendre le travail de cette initiative. Et c'est bien vrai que c'est aussi une question internationale. À travers le monde maintenant, il y a une grande question. Comment les États peuvent-ils avoir des relations importantes et respectueuses avec les peuples autochtones? C'est un problème majeur et c'est un problème qui est difficile pour les États qui sont coutumés à commander, à travailler par des obligations imposées pour être capable vraiment de travailler avec un système de droit qui est toujours avec une dispersion de l'autorité à l'intérieur des sociétés. Donc, c'est ce genre de questions que le programme est structuré pour répondre.
Eh bien, Monsieur Weber, merci infiniment pour toutes ces précisions. On va souhaiter une très bonne continuation et un très bon développement à ce Centre national des droits autochtones qui, je le rappelle, va bientôt voir le jour à Victoria, à l'Université de Victoria, à UVic. Merci encore, Monsieur Weber.
Merci beaucoup.
Passez une très bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Et c'est la fin de cette 20e émission de Regard sur le Grand Victoria. Merci infiniment à vous tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous évidemment mercredi prochain à midi pour une nouvelle émission, mais aussi à ceux qui le souhaitent le samedi à 10h pour une rediffusion et bien sûr en tout temps sur notre site internet radiovictoria.ca où vous retrouverez l'ensemble des émissions. C'était François Macon au micro de Radio Victoria. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous retrouve avec grand plaisir mercredi prochain. À très vite.